4h à Paris, 3h en temps universel. Bienvenue à l'écoute de la Radio du Monde.
Antoine Galen.
Le coup de téléphone était attendu. Donald Trump et Volodymyr Zelensky ont discuté pendant près d'une heure ce mercredi. Le président américain a salué un très bon entretien et se félicite pour son rôle de médiateur. Lors de cet appel, le président ukrainien a affirmé que l'Ukraine était prête à suspendre les frappes sur les infrastructures énergétiques et civiles. Israël continue son opération militaire à Gaza. Plus de 470 personnes sont mortes dans l'enclave depuis la nuit de lundi à mardi. La Cisjordanie occupée constate également une intensification des raids israéliens à Naplouse, vous l'entendrez. Dans ce journal également, le Qatar se présente comme un médiateur de choix entre la RDC et le Rwanda. Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont vus à Doha ce mardi. Ils se sont à nouveau engagés pour un cessez-le-feu dans l'est de la RDC où Kigali soutient la rébellion de l'AFC M23. Et puis l'expulsion de plus de 200 ressortissants vénézuéliens vers une prison du Salvador fait monter la tension entre Caracas et Washington. Les familles des personnes expulsées protestent contre une action jugée illégale. Donald Trump affiche son assurance après son échange avec Volodymyr Zelensky ce mercredi. Une conversation d'une heure selon la Maison Blanche. La veille, c'était avec le président russe Vladimir Poutine. Washington et Moscou s'étaient mis d'accord pour un cessez-le-feu partiel, seulement pour les infrastructures énergétiques. Eh bien, Volodymyr Zelensky affirme que l'Ukraine est prête à suspendre les frappes sur les infrastructures énergétiques et civiles. Le président américain fanfaronne et met en avant cet accord comme une victoire diplomatique. Correspondance d'Edward May à Atlanta.
Une conversation fantastique selon les mots du communiqué de la Maison Blanche, et le président américain a posté sur son réseau social que nous étions sur la bonne voie. Selon la Maison Blanche, le président ukrainien a remercié les États-Unis pour leur soutien et d'avoir entamé ces négociations pour un cessez-le-feu. Pourtant, l'Ukraine avait accepté la semaine dernière l'idée d'un cessez-le-feu total, mis en avant par Washington, mais qui n'était pas au goût de Vladimir Poutine, qui semble avoir dicté ses conditions avec cet accord de cessez-le-feu partiel. Mais Donald Trump a brandi l'échange avec Volodymyr Zelensky comme une victoire, une première étape selon la Maison Blanche pour ensuite élargir le cessez-le-feu avec l'objectif d'un accord de paix. Les deux pays se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour parvenir à mettre fin au conflit, une fin qui, selon les mots de la Maison Blanche, est possible sous le leadership de Donald Trump. Edward May, Atlanta, RFI.
Plus de 470 morts à Gaza depuis la reprise des frappes israéliennes dans la nuit de lundi à mardi. Bilan de la défense civile palestinienne. L'armée israélienne annonce avoir lancé des opérations terrestres ciblées dans le centre et le sud de l'enclave. Une frappe a touché un bâtiment qui abritait des employés de l'ONU. Il y a au moins un mort et cinq blessés. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, se dit profondément attristé et choqué par cette mort. Il réclame une enquête complète. Du côté de la Cisjordanie occupée, l'opération Mur de Fer se poursuit. À Naplouse, la ville est en alerte. Les raids de l'armée israélienne se multiplient dans cette grande ville du nord du territoire. Les camps de réfugiés qui ceinturent la localité sont également visés. Ce mercredi, les blindés israéliens ont pénétré dans le camp d'Al Ain, où plus de 80 familles ont été déplacées de force, selon l'agence de presse palestinienne, qui rapporte aussi un mort. Ces opérations militaires et les accrochages avec les colons sont désormais quotidiens et font craindre un embrasement, comme l'a constaté Amira Souilem, qui s'est rendue sur place.
En ce mois de Ramadan, la vieille ville de Naplouse grouille de monde et du ronronnement d'un drone israélien. Abu Oussem, épicier depuis 40 ans, observe la scène depuis sa chaise en plastique.
Il peut se passer n'importe quoi, à n'importe quel moment. N'importe quelle personne peut être tuée, torturée, emprisonnée. Personne n'a d'immunité ici. La situation est très mauvaise. Il n'y a pas de sécurité. Même chez nous, on n'est pas tranquille. Ils peuvent venir nous chercher à tout moment.
Un de ses fils a été tué par l'armée israélienne il y a 3 ans. Un combattant, justement, comme de nombreux jeunes à Naplouse. Armes lourdes à la main et visage souriant, leurs portraits ornent les ruelles de la ville. C'est l'éradication de ces groupes armés que met en avant Israël. Smartphone en main, Hassan, une petite trentaine d'années, nous montre des images de vidéosurveillance de la mosquée El Nasser qui surplombe la place principale de la vieille ville.
Ils détruiront, on réparera. Là, on voit la mosquée brûler, regarde la fumée. Le 7 mars, ils sont entrés dans plusieurs mosquées, dont celle-ci. Ils ont fouillé les lieux. Sur les images de vidéosurveillance, on ne les voit faire rien de particulier. Mais dès qu'ils sont sortis, le feu s'est déclenché. Donc ça veut dire qu'ils ont bien dû y faire quelque chose.
Il y a quelques semaines, Bezalel Smotrich, ministre des Finances israélien, avait déclaré que Naplouse doit connaître, je cite, « le même sort que Jabalia à Gaza ». Amira Suilam, de retour de Naplouse, RFI.
Escalade de violence dans la région. Les rebelles houthis yéménites ont revendiqué une quatrième attaque en 72 heures contre un porte-avions américain en mer Rouge. Et ce, tandis que des frappes américaines ont visé des fiefs des rebelles. Les tirs ont visé la capitale, Sanaa, et le nord du pays. Donald Trump menace les houthis d'être complètement anéantis. Le président américain demande également à l'Iran l'arrêt immédiat de son soutien aux rebelles yéménites. Une rencontre inattendue sous l'égide du Qatar. Les présidents du Rwanda et de la République démocratique du Congo se sont vus à Doha ce mardi. Réunis par l'émir Al-Thani, Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont à nouveau engagés pour un cessez-le-feu dans l'est de la RDC, où Kigali soutient la rébellion de l'AFC M23. L'avenir dira si cette fois les promesses se traduisent sur le terrain, mais en tout cas, le Qatar a signé un coup diplomatique, et cela grâce aux bonnes relations de l'émirat avec les deux pays. François Mazet.
Les relations du Qatar avec Kigali sont notoirement excellentes, comme en a encore témoigné le silence de l'émirat après les récentes critiques congolaises contre le partenariat entre le Paris Saint-Germain, propriété du Qatar, et Visite Rwanda. Les deux pays ont tissé des liens économiques qui doivent aboutir à la prise de participation par Qatar Airways de 60% du futur aéroport de Bouguessera, attendu en 2028 et qui deviendrait son véritable hub passager et fret en Afrique orientale, ainsi que de 49% de la compagnie nationale Rwandair. Dans le même temps, alors que Kigali est sous pression internationale en raison de son soutien au M23, le Qatar a apporté fin février 5 millions de dollars à la lutte contre la pauvreté. On se rappelle également que l'émirat avait joué un rôle de facilitateur dans la grâce et la libération de l'opposant Paul Rusesa Bagina en 2023. Le Qatar est donc très proche du Rwanda mais a également d'excellentes relations avec Kinshasa. Félix Tshisekedi s'y est rendu à plusieurs reprises, la dernière fois début janvier. Il y a même établi une ambassade de RDC. Les deux pays ont signé un accord de coopération en 2021, prévoyant le développement ou la modernisation de plusieurs ports et aéroports congolais, des projets dont la concrétisation est toujours en cours de discussion.
L'affaire exacerbe les relations déjà très tendues entre les États-Unis et le Venezuela. L'expulsion de plus de 200 ressortissants vénézuéliens vers une prison du Salvador ce lundi a donné lieu à une nouvelle passe d'armes entre Washington et Caracas. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a menacé de durcir les sanctions contre le gouvernement de Nicolas Maduro si ce dernier n'accélérait pas les rapatriements de ses ressortissants. En attendant, les familles des personnes expulsées protestent contre une action jugée illégale. Abla Junaidi.
Pour l'administration Trump, ce sont des criminels liés aux gangs. Pour leurs proches, c'est tout simplement faux. Plusieurs ont découvert leur expulsion sur une vidéo mise en ligne par les autorités salvadoriennes. Kervin Angulo est le frère d'un des expulsés. Il répond à la rédaction en espagnol de RFI.
Mon frère a passé environ 6 semaines incarcéré au Texas et juste à la fin, il a pu échanger avec notre mère. Il disait qu'il allait signer un document pour être déporté vers le Venezuela et qu'il y avait eu un jugement dans ce sens. On s'attendait, ma mère et moi, à ce qu'il retourne au Venezuela. Finalement, on a appris qu'il avait été expulsé vers le Salvador.
Le jeune homme assure que son frère n'avait aucun lien avec les réseaux criminels. S'il a été arrêté, c'est sans preuve.
Depuis qu'il est tout petit, mon frère aime les tatouages et c'est d'ailleurs quelque chose de très populaire en Colombie et au Venezuela. Depuis l'âge de 15 ans, il a tatoué le nom de ma mère et de mon grand-père.
Le gouvernement vénézuélien a condamné publiquement la détention de ses ressortissants au Salvador et l'affaire est aux mains d'un juge fédéral américain. Ce dernier a demandé à l'administration Trump de s'expliquer sur la justification de ces expulsions, suscitant la colère du président américain.
Et puis, nouvelle journée de mobilisation à Buenos Aires ce mercredi. Une semaine après les heurts qui ont fait 45 blessés en marge d'une mobilisation en soutien aux retraités. Leur pouvoir d'achat a été durement impacté par les mesures austéritaires du président argentin Javier Milei. Et ce, tandis que le Parlement a donné son feu vert au gouvernement pour conclure un nouveau prêt avec le FMI et refinancer la dette du pays. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. RFI, bientôt 4h10, à Paris 3h10, en temps universel.